rebonjour. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette première conférence de l'année 2014 sur les usages du numérique et l'enseignement. Donc, je voulais remercier Corinne Wedgerber d'avoir accepté notre invitation, profiter de sa venue en Europe pour faire cette conférence ce soir. L'idée, c'est plus un échange, hein, c'est à travers les slides qui seront présentés, que vous puissiez arrêter à tout moment. On a un micro, juste attendez le micro pour qu'on puisse vous enregistrer, poser des questions sur le travail qui est fait. La première partie sera plus une réflexion sur la recherche, ce qui a amené Corinne à faire ce travail. Voilà. Donc, on va essayer de tenir les délais à peu près 1h30. Merci. Je vous laisse la parole.
OK. Ben, bonsoir à tout le monde. Alors, je voudrais commencer par vous remercier d'avoir organisé cette conférence et aussi de m'avoir invité pour pouvoir vous partager avec vous mes idées sur la pédagogie à l'ère du numérique et aussi pour pouvoir vous parler un peu des travaux que j'ai faits dans ce domaine. Je vais m'introduire brièvement. Je suis née au Luxembourg, mais depuis une quinzaine d'années, j'habite au Texas, aux États-Unis, où je travaille comme professeur en communication à la St. Edward's University. C'est à Austin, au Texas, dans la capitale du Texas. Alors, si jamais je ne trouve pas les mots aujourd'hui, vous devez m'excuser, mais je n'ai plus vraiment l'occasion de parler français souvent au Texas. Alors, qu'est-ce que je fais là-bas? J'enseigne des cours en communication interpersonnelle, en relations publiques et surtout dans les nouvelles technologies de la communication. Et quand j'ai accepté mon poste actuel, ce sont mes collègues qui m'ont demandé de prendre en charge notre programme en relations publiques et de créer un tout nouveau programme d'études. Et c'était là, c'était l'an 2006, c'était l'année où YouTube venait d'être lancé, Facebook avait à peine 2 ans, je crois que le nombre de blogs venait de grandir de jour en jour. Et c'était aussi là l'année où, pour la première fois, j'ai entendu les gens parler d'un phénomène ou d'un mot que je ne comprenais pas très bien encore. Ce mot était les médias sociaux, social media. À l'époque, je n'avais pas encore de compte Facebook, je n'avais pas encore de blog, et je n'avais même pas encore entendu parler de Twitter ou des lecteurs RSS ou du balado-diffusage. Alors, mais une chose était sûre, c'était que les médias sociaux seraient ici pour rester et qu'ils allaient bouleverser notre manière de communiquer les uns avec les autres. Alors, à l'époque, je ne songeais pas encore au changement dans le domaine de l'éducation qu'allaient apporter ces nouvelles technologies. Mais en tant que professeur en relations publiques, je me contentais surtout d'en explorer les répercussions sur la communication interne et externe en entreprise. Et c'est à cause de cela que j'ai proposé à mon université de lancer un cours nouveau, un cours en médias sociaux pour les relations publiques appelé Social Media for PR. Et c'est ce cours-là qui m'a forcé de me plonger dans l'étude des médias sociaux, si vous voulez. Et il m'a forcé à apprendre peu à peu à tout ce qu'il fallait savoir sur le numérique et sur les réseaux sociaux, les flux RSS, etc. Alors, tout est de nouveau pour moi. Alors, je m'y connaissais avec les ordinateurs, je savais coder en HTML, mais les nouvelles technologies du web collaboratif, c'était tout à fait nouveau. Alors, pour pouvoir parler des médias sociaux comme outils de communication en relations publiques, je commençais donc peu à peu expérimenter avec toutes les nouvelles plateformes de médias sociaux, de partage social, et je me suis inscrite sur Twitter. Et c'est à ce moment-là qu'une chose étrange s'est produite. Alors, c'est vrai, chaque fois que j'avais besoin d'un exemple pour illustrer un concept dans mes cours, ou chaque fois que je cherchais une étude de cas récente, cette information avait tendance à apparaître de façon magique dans mon fil d'actualité ou dans mon lecteur RSS. Alors, je décidais alors, de nommer ce phénomène que je ne comprenais mal encore, je décida de nommer cela la sérendipité des médias sociaux. Et ce n'est que quelques mois plus tard que je me suis finalement rendu compte que cette découverte chanceuse, cet exemple parfait, n'était pas du tout chanceuse. En fait, c'était le produit d'un réseau de connexions avec des professionnels en relations publiques, des experts en médias sociaux que j'avais construit en ligne. Et c'est donc à ce moment-là quand j'ai compris comment j'apprenais moi-même à travers les réseaux sociaux et comment je bénéficiais moi-même à travers ces réseaux que j'ai découvert leur mérite en pédagogie. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai pu retracer les étapes que j'avais prises pour construire un réseau d'experts. Et j'ai pu convertir ce processus en un processus stratégique que je pouvais enseigner à mes étudiants. Alors, aujourd'hui, je voudrais bien vous parler un peu de ce que j'ai appris pendant ces 7 dernières années que j'ai expérimenté ou je viens d'expérimenter avec les TIS dans mes cours de communication. Alors, je vais commencer par une discussion plutôt conceptuelle sur mon approche envers les usages pédagogiques des médias sociaux. Et par la suite, je vais discuter les enjeux plus pratiques. Et je vais aussi tenter d'expliquer comment, en tant que professeur, vous construisez un réseau d'apprentissage efficace et comment un pareil réseau peut aider nos étudiants à accomplir ou à poursuivre un apprentissage indépendant et à vie. Mais avant de me lancer dans cette discussion, permettez-moi de vous poser une question simple. Alors, ça vous plairait? Comment aimeriez-vous avoir son assistant d'enseignement? Ça vous plaît? Ouais. Moi, ça me plaît. Moi, j'en ai des centaines d'assistants. Ils ne savent pas qu'ils sont mes assistants. Ils ne savent pas que je les appelle mes assistants, mais ce sont tout de même des gens qui travaillent pour moi sans que je les paye. C'est pas mal. Alors, si cette proposition vous intéresse, laissez-moi vous expliquer comment j'ai fait pour obtenir un tel nombre d'assistants. Alors, la première étape stratégique est de créer un réseau de professionnels en utilisant les nouvelles plateformes de réseautage social. Je pourrais vous parler d'un bon nombre de plateformes, mais je vais limiter mes observations sur 3 outils de médias sociaux différents et bien connus et bien établis. Alors, je vais discuter le microblogage, le blogage et le partage de signés. Pour l'instant, je veux juste vous montrer les avantages d'une intégration des médias sociaux dans vos cours universitaires et aussi dans votre vie académique. Plus tard, je reviendrai sur les questions pratiques liées à l'exécution d'une telle intégration. Alors, je voudrais commencer avec les bénéfices personnels que vous pouvez tirer d'un réseau d'apprentissage personnel appelé Personal Learning Networks ou PLN en anglais. Alors, définition à moi, ce sont des réseaux créés délibérément capables de guider nos objectifs d'apprentissage indépendants et nos besoins de développement professionnel. Bon, au début, je n'ai pas créé le mien d'une façon délibérée, comme je n'avais pas pour but de créer un réseau d'apprentissage, mais c'est quand même ce que je me suis trouvé avec. Quand j'ai finalement compris ce qui s'était passé, je n'avais qu'à retracer les étapes pour voir comment venait de naître ce réseau. Et juste pour vous faire voir, ici, voici comment se passe le transfert d'informations une fois un réseau d'apprentissage ou un réseau personnel d'apprentissage établi. Alors, j'ai choisi un exemple récent, mais je tiens à préciser que ce n'est qu'un exemple parmi une centaine d'exemples que j'aurais pu choisir. Alors, ce que vous voyez ici, c'est... Ce que vous voyez ici, c'est l'exemple d'un tweet. Ce que vous voyez sur ce diapo, c'est le trajet qu'a fait la formation pour parvenir à moi. Un utilisateur Twitter vient de partager un lien sur une thèse de doctorat sur la réputation en ligne, la veille, la curation des contenus. Et comme je suis abonnée aux tweets d'Olivier, au gazouille d'Olivier, il fait partie de mon réseau personnel d'apprentissage. Et son tweet est apparu dans mon fil d'actualité. Et comme c'était là quelque chose qui m'intéresse, j'ai décidé de ranger dans ma liste signée ce lien en utilisant un service de partage de signés nommé Digo. J'en parlerai davantage plus tard. Pour l'instant, ce que je voulais juste vous montrer, c'est la façon dont vous pouvez faire venir vers vous l'information. Alors, sans devoir utiliser un moteur de recherche comme Google. Alors, l'avantage par rapport au moteur de recherche, c'est que Olivier, il est humain, il est expert en matière d'éducation, et il vient sans doute de... il a probablement examiné le lien avant de le partager avec son réseau. Alors, c'est grâce à lui et à son gazouille que j'ai donc obtenu une ressource qui... pourrait s'avérer très utile pour mes cours en relations publiques ou aux médias sociaux. Je ne sais pas encore si je vais utiliser cette ressource, mais pour l'instant, je l'ai classée dans mes signés sociaux et j'ai utilisé un mot-clé qui va me permettre de retrouver cette ressource quand il sera temps de préparer mes nouveaux cours pour le nouvel semestre. Alors, d'une manière, ce que j'ai fait ici, c'est de créer un entrepôt virtuel pour l'information que me fournit mon réseau d'apprentissage. Alors, j'utilise un service de partage de signés pour recueillir les matériaux didactiques qui me parviennent à travers ces réseaux. Alors, si l'information que je reçois me semble intéressante, je l'ajoute tout simplement à mes signés. L'avantage, c'est que ça prend très peu de temps. C'est un investissement de temps minimal. Et ce que je fais, moi, c'est... Je vais vous montrer. Comme tous nos cours ont un préfixe et un nombre unique, j'utilise ce nombre comme un des mots-clés pour classer mes signés. Ainsi, j'ai utilisé le mot-clé comme 3309. C'est le nom de mon cours, pour désigner toute ressource que j'utilise ou que j'estime utile pour ce cours. Alors, Digo vous permet d'ajouter dans des signés en privé ou de les faire publics. Je préfère faire les miens publics pour pouvoir partager avec mon réseau ce que je trouve en ligne. Alors, c'est donc de cette manière-là que mon réseau de relations professionnelles ou d'assistants, comme j'ai bien les appelé, mais chaque jour mettre au courant mes matériaux de classe. Et je trouve que c'est d'autant plus important de faire en sorte que vos matériaux soient continuellement mis au courant. Si vous travaillez dans un domaine comme la communication où les choses changent si rapidement, alors à mon grand soulagement, je suis pourtant plus livrée à moi-même dans ce travail, dans cet effort. C'est mon réseau qui m'apporte son assistance continue et m'alimente régulièrement avec des nouvelles informations que je regroupe tout simplement pendant l'année. Alors, voici quelques exemples. Le premier, c'est l'exemple d'un syllabus collaboratif que j'ai produit pour mon cours en médias sociaux. Alors, si vous enseignez un cours comme celui-là, vous devenez vite fatigué parce que vous devez remanier chaque semestre votre cours. Alors, après avoir remis à jour mon syllabus pour la énième fois, je me suis dit, ça suffit, il faut y avoir une meilleure solution. Alors, je savais que les enseignants, que mes collègues d'autres universités qui enseignaient des cours similaires se plaignaient de la même chose. Et je savais cela parce que les réseaux sociaux me permettent de rester en contact étroit avec ses collègues à travers le monde et j'avais vu les se plaindre sur Twitter. Alors, j'ai publié un billet de blog qui a invité mes collègues à collaborer à l'élaboration d'un syllabus collectif. Alors, voici le billet de blog. Et ce que j'ai proposé, c'est qu'au lieu de réinventer la roue chacun dans son coin, on lance un wiki. Et c'était wiki, vous connaissez, c'est un site web collaboratif qui vous permet de modifier les pages. Ce wiki que j'ai mis en ligne permettait à tout enseignant ou à tout professionnel de la communication de proposer des sujets d'études, de proposer des objectifs pour le cours et de planifier les activités et les modes d'évaluation. Alors, en fin de compte, il y a 5 à 6 enseignants à travers les études, les États-Unis qui ont participé à cette collaboration. Ce n'est sans doute pas une collaboration à grande échelle, mais j'estime quand même que c'est une collaboration réussite. Et mes collègues ont ajouté des approches ou des sujets que je n'aurais pas songé à ajouter moi-même. Alors, voici un autre exemple. Cette fois-ci, des devoirs de classe collaboratifs. Alors, ceci est l'exemple d'une collègue qui enseigne le journalisme à l'université de Memphis. Alors, il y a quelques semestres, cette collègue venait de développer une activité interactive, une sorte de chasse au trésor pour apprendre aux étudiants à utiliser Twitter comme outil en journalisme ou comme outil journalistique. Mais au lieu de garder pour soi seule cette activité qu'elle a développée, elle a mise en ligne et l'a partagée à travers Twitter et à travers son blog. Et c'est comme ça que je suis trouvée sur cette activité et comme elle me semblait prometteuse, je l'ai intégrée dans mon cours. Et avec un grand succès, il faut le dire, les étudiants la trouvent intéressante et moi je la trouve efficace en ce qui concerne le but pédagogique. Et au dernier compte, il y avait une vingtaine de classes universitaires à travers le monde, je crois que c'est dans 5 pays qui avaient participé dans cet exercice. Et le plus important pour moi, c'est que ça m'a coûté très peu de temps. Ça m'a coûté très peu d'efforts, mais c'est une activité qui, quand même, a enrichi mon cours. Alors, mon troisième exemple vient d'une autre collègue en relations publiques qui a développé un projet pour apprendre aux étudiants à faire la veille numérique en entreprise. Alors, c'est là un thème que j'aborde aussi dans mes cours. Et comme cela m'intéressait, j'ai décidé d'intégrer, elle a partagé ce projet en ligne et je l'ai vu et j'ai décidé de l'intégrer dans mon cours. Alors, j'ai dû l'adapter un peu pour mes propres besoins, mais je n'ai pas à vous le dire, adapter un projet, ça se fait beaucoup plus rapidement que de créer un projet à partir de zéro. Alors, je sais bien que certains collègues où certains enseignants sont opposés à l'idée du partage en éducation et c'est la même chose pour vous. Ouais. Et je crois qu'ils craignent être plagiés par leurs collègues d'autres universités, mais pour moi, les avantages du partage, pour moi, le partage réalisé à travers ces réseaux porte beaucoup plus d'avantages que de menaces. Je vais revenir sur les avantages professionnels dans quelques instants. Mais certes, vous trouvez toujours des gens qui vont utiliser vos matériaux sans vous créditer, mais je trouve que ceux qui vous créditent proprement sont d'autant plus nombreux. Alors, laissez-moi vous montrer un dernier exemple. Et c'est là un de mes exemples préférés. Alors, j'aimerais bien assumer le mérite de cette activité parce qu'elle est superbe, mais malheureusement, je ne l'ai pas inventée. Alors, un des thèmes que nous abordons dans mes cours en nouvelles technologies, c'est la gérance de la réputation en ligne. Et pour sensibiliser mes étudiants aux risques des médias sociaux, j'avais tendance à leur parler des risques. J'avais tendance à prendre une classe entière, une période de classe entière pour leur en parler. Et le problème, c'est que quand je me suis mis à leur en parler, mes étudiants, les soi-disant natifs numériques, m'ont regardé avec un visage tourmenté, comme pour me dire, c'est nous les experts sur ce sujet, et pourquoi assistez-vous à nous ennuyer de telle façon? Mais le problème, c'est que une simple recherche avec le moteur Google suffisait pour confirmer que mes étudiants avaient encore beaucoup à apprendre sur ce sujet. Alors, c'est juste à ce moment-là, quand je commençais à m'interroger sur l'efficacité de mon approche pédagogique, que j'ai vu un gazouillis contenant un lien envers un billet de blog, et ce billet décrivait une manière assez créative pour sensibiliser les étudiants au thème de la réputation en ligne. Il proposait que le professeur introduise chaque étudiant au début du semestre à l'aide d'informations publiques trouvées en ligne et surtout sur les réseaux sociaux. Alors, c'était juste ce qu'il me fallait. Depuis lors, je commence chaque semestre avec une présentation introduisant chaque étudiant, chacun de mes étudiants. Et cette présentation contient des photos, des informations que j'ai trouvées en ligne. Et ça prend un peu de temps pour réaliser, mais quand même, je vous assure que vous ne pouvez pas faire cela avec 1000 ou quelques centaines d'étudiants, mais moi, mes cours, normalement, j'ai une vingtaine d'étudiants. Ça prend un peu de temps, mais je vous assure que ça a eu un impact beaucoup plus important que mon discours sur la réputation en ligne. Mais c'est là un bel exemple. Encore une fois, c'est là un bel exemple d'un illustrant comment un professeur que je ne connais même pas a pu enrichir mon cours à travers le partage en ligne. Et c'est pour ça que j'aime bien cet exemple. Alors, j'ai fait exprès de commencer avec les exemples pour vous montrer les avantages de devenir professeur connecté. C'est le thème de ma conférence. Alors, le professeur connecté bénéficie de son réseau et le réseau à son tour, lui fournit les ressources. Et le rôle du professeur connecté est alors d'en faire la curation, c'est-à-dire de filtrer les informations qui lui parviennent à travers son réseau, de retenir les meilleures, de les classer, de les regrouper, et puis d'ajouter son commentaire pour créer quelque chose de nouveau qu'il puisse donner à ses étudiants. Alors, cette nouvelle création, je crois que le professeur connecté fera bien de la partager de nouveau avec son réseau, en sorte, quelque sorte comme remerciement pour toutes les informations que lui a fournies son réseau. Alors, mon concept du professeur connecté se base dans les théories du modélage et de l'échafaudage pédagogique. Alors, dans le modélage, le professeur doit se considérer comme modèle d'apprentissage de connaissances pour ses étudiants. Alors, l'enseignant modèle et explique les tâches d'apprentissage, et puis il partage le processus avec ses étudiants. Et pour que ce processus soit efficace, les étudiants doivent avoir la possibilité d'observer, de pratiquer et puis aussi d'assumer la responsabilité pour leur propre apprentissage. Alors, d'une manière similaire, le concept de l'échafaudage pédagogique comprend le milieu d'apprentissage, le soutien qu'apporte un enseignant à ses étudiants, ainsi que le processus fourni à l'étudiant pour accomplir pour l'aider à aborder une tâche et à développer des habiletés pour accomplir cette tâche. Et le soutien technique, lui aussi, fait partie de l'échafaudage. Alors, en bref, l'échafaudage pédagogique, c'est une technique d'enseignement qui qui amène l'étudiant à améliorer ses connaissances ou son niveau de connaissances jusqu'à ce qu'il soit capable de, d'exécuter une tâche particulière de façon autonome. Alors, au fur et à mesure que l'étudiant devient de plus en plus capable, le professeur retire progressivement son soutien et tout cela pour l'amener à un apprentissage indépendant. Alors, le professeur, de même le professeur connecté, peut modeler à ses, peut servir comme modèle à ses étudiants pour lui montrer ou pour leur montrer comment acquérir des connaissances nouvelles à travers un réseau numérique et de partager ce processus avec ses étudiants. Alors, dans le cas idéal, et c'est le cas idéal, le professeur connecté réussit à encourager les étudiants à créer leur propre réseau d'apprentissage et de les guider à travers le processus de construction d'un tel réseau. Alors, pour faire cela, j'ai développé deux projets différents, un qui porte sur l'apprentissage indépendant à travers les réseaux personnels d'apprentissage et un autre qui porte sur la curation de l'information reçue à travers ces réseaux. Alors, le premier que vous voyez ici vise à apprendre aux étudiants à identifier des experts et à profiter de leur flux d'actualité, alors que le deuxième que vous voyez là, vise à apprendre aux étudiants à sélectionner, à regrouper, à ajouter de la valeur à l'information qu'ils reçoivent à travers leur réseau. Alors, vous pouvez retrouver les détails de ces projets sur mon blog. Je voulais juste les montrer. Mais bref, pour résumer, je crois que ce graphique résume assez clairement comment je vois le rôle du professeur à l'ère numérique. Alors, l'enseignant moderne se sert des nouvelles technologies pour créer des réseaux d'apprentissage et par son modèle, il amène les étudiants à en faire de même. Alors, ceci leur donne la possibilité de... Ça donne aux étudiants la possibilité de comprendre comment utiliser les médias sociaux d'une façon stratégique pour accroître et pour approfondir leurs connaissances. Alors, face aux innombrables informations que reçoit l'enseignant connecté à travers son réseau, il doit en faire la curation. Et l'enseignant curateur, alors, devient donc nécessairement enseignant curateur et se voit donner la chance de modéler à ses étudiants ou il se voit donner l'occasion de tourner ses propres étudiants en étudiants curateurs par son modèle. Alors, mais comme je viens de le dire dans ma discussion des théories de l'échafaudage, il faut cependant que l'enseignant explique le processus qu'il faut suivre. Et c'est ce processus que je voudrais aborder dans la deuxième partie de ma conférence. Alors, comment exactement fait-on pour créer un tel réseau d'apprentissage en utilisant les plateformes que je viens de mentionner, le microblogage, le blogage et le partage de signés. Alors, il est important de noter que le processus que je vais décrire est le même pour le professeur comme pour les étudiants. Je vais commencer avec la plateforme de microblogage, Twitter. Alors, est-ce que quelqu'un utilise Twitter? Quelques mains? Ok. Alors, j'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser Twitter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés à découvrir ce que vient de manger tout le monde. Ouais. Alors, d'autres m'ont dit qu'ils ne savent quoi gazouiller et j'entends souvent ces remarques. Ah, ma réponse est toujours la même. Alors, d'abord, si vous ne voulez pas voir ce que vient de manger tout le monde, n'abonnez-vous pas aux utilisateurs Twitter qui ont tendance à vous parler de leur repas. Ou bien désabonnez-vous, ça prend un clic plus important encore, je leur dis ou je leur explique qu'ils n'ont pas besoin de gazouiller eux-mêmes pour profiter de Twitter. Et c'est vrai, il est tout à fait possible d'utiliser Twitter comme un outil comme un service d'actualité qui vous livre des informations sur un sujet précis, un peu comme un journal ou un magazine. Alors, par exemple, en identifiant et en suivant des gazouilleurs qui ont tendance à parler de l'éducation et du numérique, je peux me créer un service d'actualité spécialisé ou adapté à mes besoins personnels dans un domaine spécialisé. C'est un peu comme une agence France Presse pour le numérique à l'école. Et cela ne me coûte rien. Alors, si Twitter est nouveau pour vous, je vous conseille de l'utiliser comme un outil d'écoute pour quelques semaines avant de vous mettre à gazouiller vous-même. Je crois qu'une des choses les plus difficiles pour les utilisateurs nouveaux, c'est de trouver d'autres utilisateurs qui valent la peine de les suivre, et non pas ceux qui vous parlent de leur repas. Alors, si vous connaissez des collègues ou des gens dont vous admirez les travaux, je commencerai par trouver leur pseudo avec le moteur de recherche de Twitter. Et une fois que vous avez trouvé leur pseudo, c'est-à-dire le nom qu'ils se sont donné sur Twitter, vous pouvez vous abonner à leur gazouille. Alors, à partir de ce moment-là, vous pouvez agrandir votre réseau de différentes manières. Une de mes préférées, c'est de consulter la liste d'abonnés ou la liste d'abonnements. Je vais vous montrer en un instant. Et particulièrement de consulter la liste d'abonnés et d'abonnements d'un utilisateur que vous venez de suivre. Le but, c'est de voir à quel compte sont abonnées les personnes que vous connaissez ou que vous admirez. Alors, si vous vous rendez sur la page de profil d'un utilisateur Twitter, vous verrez des liens vers ces listes dans deux endroits différents en haut de la page de profil d'un utilisateur. Alors, la première, c'est dans la barre à gauche, et la deuxième, c'est en dessous de la biographie et de la localisation d'un utilisateur. Alors, la liste d'abonnements, en anglais c'est le following, va vous faire découvrir les comptes auxquels un utilisateur est abonné, tandis que la liste d'abonnés, followers, va vous montrer les personnes qui ont choisi de recevoir les gazouilles d'un certain utilisateur. Alors, si vous consulteriez mes abonnements, vous y trouverez des professeurs, des experts en médias sociaux, des journalistes, des experts en relations publiques. Et comme j'ai déjà déterminé que ce sont là des utilisateurs dignes d'intérêt, je vous ai rendu plus facile la tâche de trouver d'autres utilisateurs à suivre. Alors, la même chose peut se dire pour les... pour la liste d'abonnés. La liste d'abonnés contient les gens qui me suivent sur Twitter. Ils savent bien que je parle surtout des affaires universitaires, des médias sociaux, du numérique à l'école. Et comme ils ont choisi de me suivre, on peut en conclure qu'ils partagent un intérêt commun. Alors, si vous êtes à la recherche d'utilisateurs Twitter qui se sont spécialisés dans le numérique à l'école, la plupart des gens qui me suivent sur Twitter devraient vous intéresser en théorie, devraient vous intéresser vous aussi. Alors, une autre manière d'élargir son réseau est de consulter les listes Twitter proprement dites. Alors, quand nous parlons de listes Twitter, il faut savoir qu'il y a deux listes différentes. Il y a les listes que vous avez créées vous-même et il y a les listes dans lesquelles vous figurez. Alors, vous trouverez le lien pour ces listes dans la barre gauche en haut de la page de profil d'un utilisateur et chaque utilisateur peut créer ces listes. Alors, pour voir les listes dans lesquelles vous figurez, vous cliquez « Liste » et puis vous cliquez sur « Membre de ». Et voici une capture d'écran. Mais l'astuce des listes, c'est qu'un utilisateur a pris le temps pour sélectionner des membres et pour vérifier qu'ils correspondent bien au thème ou au sujet de la liste. Alors, voici les dernières listes dans lesquelles je figure. Vous voyez immédiatement que la plupart de ces listes concernent l'éducation. Si vous ne connaîtrez que moi sur Twitter, alors ces listes dans lesquelles je figure vous donnent accès immédiat à une centaine d'autres, à des centaines d'autres enseignants qui ont des intérêts similaires. Et comme vous le voyez, certaines de ces listes contiennent 3 ou 4 000 personnes. Alors, si vous cliquez sur le nom de la liste, j'ai fait ça ici. Si vous cliquez sur le nom de la liste en rose foncé, vous verrez tous les membres de cette liste. Alors, voici une capture d'écran. Vous avez alors le choix de suivre la liste entière en appuyant sur le bouton « Subscribe » ou vous pouvez suivre juste quelques utilisateurs en appuyant sur le bouton « Follow ». Alors, une chose qu'il faut savoir sur les listes, c'est que si vous vous abonnez à une liste entière, les gazouillis de cette liste ne vont pas apparaître dans le fil de votre page d'accueil. Alors, vous devez aller sur la page sur votre page de profil et cliquer sur l'onglet nommé liste pour voir, pour afficher les tweets émanant des listes auxquelles vous vous êtes inscrit ou abonné. Alors, une autre manière d'élargir son réseau est de, je ne sais pas si vous connaissez le Follow Friday, FF, je vais vous montrer. Alors, c'est une autre façon d'élargir un réseau, c'est de consulter les suggestions Follow Friday. Et ils sont souvent marqués avec le mot dièse suivi par FF. Alors, c'est une coutume sur Twitter, ne me demandez pas pourquoi vendredi, je ne sais pas. C'est une coutume sur Twitter de faire une liste de gens intéressants à suivre chaque vendredi. Alors, voici un exemple. Ces gazouillis ont parfois l'air bizarre parce qu'ils ne disent pas grand-chose et ils ne contiennent que le mot dièse FF et un bon nombre de pseudos, mais quand même, ils sont très utiles dans la découverte de nouveaux experts à suivre. Comme dans les exemples précédents, c'est un utilisateur ou c'est l'auteur du tweet qui a vérifié pour vous que ces gens-là sont des gazouilleurs dignes d'intérêt, et c'est-à-dire que vos assistants en ligne ont fait le travail pour vous. Alors, mon dernier conseil, consultez les RT, les retweets, pour identifier l'auteur d'un gazouille original. Alors, voici l'exemple de Jacques Cool qui vient de partager avec son réseau un tweet d'un certain Gilles Lepage. Alors, je suis abonné au tweet de Jacques, mais je ne connais pas encore Gilles. Mais comme il semble que Gilles s'intéresse comme moi, Otis, je me rends sur sa page de profil pour voir si ses autres tweets m'intéressent aussi. Et si oui, je n'ai qu'à ajouter Gilles à mon réseau. Je pense qu'une simple évaluation des derniers gazouillis suffit pour faire cette décision. Dans ce cas-ci, Gilles vient de partager un bon nombre de tweets qui m'intéressent et je l'ajoute donc à mon réseau, ou comme je préfère d'en penser, je le fais mon assistant personnel. Merci Gilles. Alors voilà donc quelques stratégies efficaces et simples pour construire un réseau qui va vous être très utile et qui va vous permettre de rester au courant de ce qui se passe dans votre domaine d'études sans trop vous épuiser. Alors, une fois votre réseau établi, je vous conseillerais juste de le peaufiner un peu. Et c'est-à-dire, à partir d'un certain moment, quand vous avez plus ou moins une centaine d'abonnements, il sera temps de commencer à filtrer votre fil d'actualité. C'est là où les applications tierces parties comme Hootsuite ou TweetDeck deviennent intéressantes. Ces applications vous permettent de gérer vos abonnements et de les regrouper. Par exemple, au lieu de lire dans le même fil d'actualité, voire la même colonne, tous les gazouillis des quelques 900 gazouilleurs auxquels je suis abonné, j'utilise Hootsuite pour pouvoir consulter mes flux de manière thématique. Alors, j'ai divisé ainsi mes 900 abonnements en listes Twitter. J'ai par exemple une liste pour les enseignants, j'ai une liste pour les journalistes et les professionnels des relations publiques, j'ai une liste pour les gazouillis en langue étrangère. Et Hootsuite vous permet de regrouper ces tweets et d'afficher les flux d'actualité de ces différentes listes en différentes colonnes. Et quand vous avez un certain nombre d'abonnements, ces colonnes vous facilitent réellement la lecture de vos tweets et ils garantissent aussi que vous ne ratez rien. Alors, si vous n'êtes pas sûr, si vous devriez suivre un certain utilisateur, je recommande de l'ajouter à votre réseau, de lui donner un mois, deux mois, et puis de réévaluer votre décision à la fin de ce mois. Je considère cela comme une période d'essai pour mes assistants. S'ils me fournissent avec des ressources utiles, je reste abonné. S'ils ne me fournissent rien d'utile, alors je me désabonne et c'est simple. La plupart des utilisateurs ne vont même pas constater que vous ne les suivez plus. Alors, mais je pense qu'il est important de faire le grand nettoyage de votre réseau de temps en temps pour vous débarrasser de tout ce qui vous n'est plus utile. C'est un peu comme, je préfère en penser, comme une armoire. Votre réseau est comme une armoire. Vous savez bien qu'il faut se débarrasser des pulls et des chemisiers que vous ne portez plus pour faire place à la nouvelle collection. Enfin, il faut répéter de temps en temps les étapes que je viens de discuter afin d'ajouter de nouveaux utilisateurs à votre fil d'actualité. Si vous suivez ces étapes, je suis sûre que vous finiriez avec un réseau qui vous sera très utile. Certes, la construction du réseau prend un peu de temps, mais rappelez-vous qu'une fois établi, vous serez plus que remboursé pour votre investissement en temps. Alors, maintenant que nous avons vu comment utiliser Twitter d'une manière stratégique pour diriger l'information vers vous, je voudrais brièvement vous parler comment faire la même chose avec les blogs et les services de partage de signés. Alors, le processus à suivre pour les blogs est presque identique. De nouveau, vous partez avec des gens ou des collègues dont vous admirez les travaux. Et cette fois-ci, je vous recommande une simple recherche avec un moteur de recherche ou avec le moteur recherche blog de Google pour trouver leur blog professionnel ou leur blog personnel ou leur blog d'entreprise. Une fois trouvé, vous n'avez qu'à ajouter ces blogs à votre lecteur RSS. Alors, si vous voyez l'icône comme celle-là, elle est turquoise ici, mais normalement, c'est une icône orange. Vous pouvez aussi appuyer sur cette icône pour vous abonner au blog à un blogueur. Mais encore faut-il avoir un lecteur RSS, de flux RSS pour pouvoir vous abonner. Et si vous ne connaissez pas les lecteurs RSS, ce sont des outils qui vous permettent de vous tenir au courant des actualités, des nouveautés d'un site web sans pour autant avoir à visiter le site. Alors, c'est un peu comme les fils d'actualité de Twitter ou de Facebook qui le lecteur RSS regroupe pour vous sur la même page toutes les nouvelles auxquelles vous êtes abonné. Alors, donc, si un blogueur publie un billet de blog nouveau, ce billet apparaîtra, et je suis abonné à ce blog, ce billet de blog apparaîtra automatiquement dans mon lecteur RSS sans que je n'ai visité le blog. Alors, il y a une bonne dizaine de lecteurs. Il y a une dizaine de bons lecteurs que vous pouvez utiliser gratuitement et qui fonctionnent soit comme application en ligne, soit comme logiciel que vous devez installer sur votre ordinateur. Moi, j'utilise un lecteur en ligne nommé Bloglines. Et voici une capture d'écran d'une partie de mes abonnements. Dans la barre gauche, vous voyez tous mes abonnements et vous voyez aussi le nombre de nouvelles actualités que je n'ai pas encore lues. Alors, dans la fenêtre principale, c'est là qu'apparaissent les actualités. Alors ici, j'ai choisi de vous montrer les actualités du Nouvel Observateur. Alors, mon lecteur me dit qu'il y a 71 actualités nouvelles depuis ma dernière visite. Et mon lecteur ne me montre qu'un résumé des actualités, mais je pourrais aussi lire l'article entier dans mon lecteur si je changerais les paramètres. Alors, vous pouvez aussi agrandir votre réseau en consultant ce qui est appelé le blog roll d'un blog. Alors, le blog roll est une liste de sites ou de blogs recommandés par un blogueur. C'est un peu à la star des listes Twitter. Alors, ici, un exemple d'un blog roll d'un blogueur canadien qui a mis en ligne une liste de ses 29 blogs préférés. Et consulter ces listes est un bon moyen de trouver de blogs nouveaux à suivre. Et vous pouvez aussi examiner les liens publiés sur un blog et voir où il mène. Parfois, un lien envers un autre blog vous fait découvrir une perle de blog. Et de même, il est parfois payant de vérifier si vos utilisateurs Twitter préférés ont un blog. Alors, une grande partie des utilisateurs Twitter publient leur blog ou l'adresse de leur blog dans la description, dans la biographie, en haut de la page de profil. Alors, la page de profil est donc un bon point de départ afin de trouver de nouveaux utilisateurs à ajouter à votre réseau. Alors, maintenant qu'on a alimenté notre lecteur RSS avec des blogs, il faut juste ajouter un troisième outil pour perfectionner le réseau. Et ceci sont les signés sociaux. Alors, on a entendu et on a lu beaucoup de choses sur Twitter, on a entendu beaucoup de choses sur les blogs, mais je trouve que les plateformes de partage de signes sociaux sont plutôt mal connues pour leur capacité à faciliter le réseautage et la découverte sociale. Alors, qu'est-ce qu'un site de partage de signes ou un service de partage de signes? C'est un service qui vous permet de sauvegarder, de classer et de partager une collection de signés. Alors, un utilisateur peut classer ses signés avec des mots-clés de son choix. Ces mots-clés sont appelés tags. Alors, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est que les services de partage de signés vous permettent de vous abonner aux signés d'autres utilisateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que chaque fois qu'un utilisateur auquel je suis abonné trouve quelque chose d'intéressant en ligne et qu'il le met dans ses signés, ces signés vont apparaître dans mon lecteur RSS. Alors, vous pouvez avoir des dizaines d'assistants en recherche qui parcourent le web pour... qui parcourent le web pour vous et qui vous fournissent seulement avec les meilleurs résultats. Et voici comment faire. Comme toujours, vous pouvez utiliser le moteur recherche d'un service de partage de signés pour trouver un utilisateur, mais cela présuppose que vous connaissiez déjà un utilisateur. Si ce n'est pas le cas, je vous propose une recherche par mots-clés. Et moi, j'utilise un service de partage de signés appelé Digo. Ce n'est pas nécessairement le meilleur service, mais c'est un service populaire. Et je trouve que plus il y a d'utilisateurs, plus le service devient intéressant du point de vue du réseautage. Alors, si vous vous rendez sur l'adresse suivante, digo.com/people/search, vous pouvez rechercher n'importe quel mot-clé ou tag. Ici, j'ai fait... une recherche pour le tag TIS. Et comme vous le voyez, Digo me dit qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont utilisé ce mot-clé pour décrire un signet qu'ils viennent d'ajouter à Digo. Et la première utilisatrice affichée est Isabelle Gruyé, que je ne connais pas, mais à juger des mots-clés utilisés les plus fréquemment, Isabelle semble partager un intérêt commun pour le numérique à l'école. Alors, si je veux vraiment m'assurer qu'Isabelle est une utilisatrice digne de mon intérêt, je peux aussi consulter son nuage de mots-clés. Alors, voici une capture d'écran. Je ne sais bien si vous pouvez le voir, mais un nuage de mots-clés est une représentant visuelle de tous les mots-clés avec le nombre de fois qu'elle a utilisé le mot-clé en parenthèse et les mots-clés utilisés les plus fréquemment affichés en police de caractère de taille d'autant plus grande. Et j'aime bien inspecter ce nuage de mots-clés pour me donner une image des intérêts d'un utilisateur ou d'une utilisatrice. Alors, au cas où je trouve un intérêt commun, j'examine ensuite les derniers signés ajoutés. Voici la liste des derniers signés ajoutés par Isabelle. Alors, vous voyez un signé sur le personal branding, un signé sur les sites pour apprendre Excel et aussi un signé sur la conversion de fichiers. Alors, tout cela m'intéresse et j'ajoute donc Isabelle à mon lecteur RSS. Je vais vous montrer comment faire en un instant. Avant, je voudrais juste vous montrer une dernière stratégie efficace, elle aussi, et c'est la recherche par adresse Internet. Alors, pourquoi ? Parce que parfois, vous trouvez un lien ou une ressource parfaite et vous voulez savoir s'il y a d'autres utilisateurs ou d'autres internautes qui ont mis dans leur signé cette page ou ce lien. Alors, Digo vous permet de trouver la réponse à cette question. Dans cette diapo, j'ai demandé à Digo de me montrer tous les internautes qui ont sauvegardé dans leur signé la thèse de doctorat sur la thèse de doctorat dont je me suis servi comme exemple au début de ma conférence. Alors, Digo révèle que oui, il y a 8 utilisateurs qui ont mis cette thèse dans leur signé public. Alors, vous voyez 3 de ces 8 utilisateurs sur cette capture d'écran. Et maintenant, je n'ai qu'à répéter les étapes que je viens tout juste d'expliquer pour décider si je veux m'abonner au signé d'un de ces utilisateurs. Alors, à ce moment-là, j'ai 3 options différentes. Je peux, soit je m'abonne au fil RSS d'un utilisateur, ce qui signifie que je vais recevoir tous les signés d'un utilisateur. Donc, chaque fois que cet utilisateur va ajouter un nouveau signé, peu importe le mot-clé qu'il lui donne, ce signé va apparaître dans mon lecteur RSS. J'ai aussi l'option, c'est la dernière option, j'ai aussi l'option de m'abonner au fil RSS du mot-clé, soit au mot-clé lui-même, soit un certain mot-clé utilisé que par un certain utilisateur. Alors, si je m'abonne à l'adresse, la dernière adresse que vous voyez ici, digo.com/user/ygruyer/tis, alors, ce que je vais faire, c'est de recevoir juste les signés qu'Isabelle Gruyé ou qu'Isabelle a classé avec le mot-clé TIS. Mon lecteur RSS ne va pas afficher ces autres signés, seulement ceux avec le mot-clé TIS. Par contre, si je m'abonne, je peux aussi m'abonner à un mot-clé sans spécifier un utilisateur. Alors, si je m'abonne à l'adresse digo.com/tag/tis ou le nom du mot-clé que vous cherchez, alors un nouveau signé va apparaître dans mon lecteur RSS chaque fois que n'importe quel utilisateur Digo met dans ce signé un lien et utilise le mot-clé TIS. Alors, juste pour vous montrer, voilà le résultat dans mon lecteur RSS. Et vous voyez que je reçois maintenant, premièrement, je reçois les signes d'Isabelle portant sur, uniquement sur les tisses. Je reçois tous les signes d'Isabelle. Et troisièmement, je reçois tous les signes de n'importe quel utilisateur d'Ego comportant le mot-clé tisse. Alors, ce que j'ai fait ici, ou le plus important, c'est que j'ai fait venir vers moi l'information sans devoir m'épuiser. Alors, ce sont mes assistants virtuels qui ont fait le travail pour moi. Et c'est bien ça. Alors, vous pouvez certes utiliser d'autres plateformes de médias sociaux pour construire un réseau personnel d'apprentissage, ou vous pouvez aussi ajouter d'autres plateformes, mais je crois que les trois plateformes que je viens de décrire, de discuter, se prêtent particulièrement bien à la tâche. Et une fois que vous vous êtes habitué à votre réseau et que vous commencez à vous rendre compte des avantages que vous apporte votre nouvel rôle comme professeur branché, vous pouvez servir comme modèle, comme je viens de le dire, vous pouvez servir comme modèle à vos étudiants. Pour moi, c'est à partir du moment où j'ai vraiment compris comment mon réseau est ma formation continue et professionnelle que j'ai pu transmettre à mes étudiants les leçons que j'en ai tirées. Alors, je ne crois pas qu'il suffit de devenir professeur connecté. Pour que nos étudiants puissent réussir dans un monde où les connaissances se multiplient de façon exponentielle alors que leur durée de vie ne cesse de diminuer, il faut leur donner les outils pour poursuivre un apprentissage indépendant et à vie. Et c'est pour cette raison que j'explique à mes étudiants le même processus que je viens de vous expliquer et que je les encourage à créer leur propre réseau d'apprentissage et conçu de manière à leur aider avec l'exécution d'un projet de classe. Alors, je vous montre, voici, j'adore bien ce tweet, c'est un tweet d'un étudiant reçu environ un an après la fin d'un de mes cours. Alors, j'adore ce tweet parce qu'il est honnête. Alors, il lit « J'ai réussi votre classe grâce à mon réseau personnel d'apprentissage. » Ou, comme je le détestais au début, mais ne vous inquiétez pas, je l'utilise encore d'une manière régulière. Alors, j'aime bien ce tweet parce qu'il montre qu'il faut du temps aux étudiants et je pense d'ailleurs aussi aux enseignants pour commencer à apprécier votre réseau d'apprentissage. Ça prend beaucoup de temps pour construire, mais une fois construit, oui, c'est un investissement en temps qui est bien investi. Alors, je me rends bien compte que je viens de vous dire qu'on n'a pas besoin de gazouiller soi-même pour profiter de Twitter. Et c'est vrai que dans un premier temps, on peut utiliser ce réseau sans y contribuer, vos réseaux sans y contribuer activement. Mais je crois comme stratégie à long terme, il est néanmoins important de maintenir son réseau. Et si vous vous êtes jamais rendu dans la Louisiane ou la Nouvelle-Orléans, vous savez peut-être qu'on utilise le mot lagniappe pour... vous connaissez ? Ouais. On utilise le mot lagniappe pour désigner un cadeau de faible valeur offert par un marchand. C'est un petit quelque chose en plus, une sorte de bonus pour faire plaisir à un acheteur. Et dans la Nouvelle-Orléans, c'est souvent une écrevisse qu'on vous sert sur votre assiette. Oui, comme je ne mange pas de poisson et fruits de mer, c'est un cadeau qui ne m'apporte pas grand-chose, mais je crois que c'est l'intention qui compte. Et de même, vous faites bien d'offrir une lagniappe à votre réseau de temps en temps. Ceci peut se faire par le partage d'un lien, par un commentaire ou n'importe quel... ou d'autres choses. Après tout, c'est le réseau qui vit grâce à l'échange. Alors, moi, comme je crée pas mal de présentations pour mes cours et les conférences que je donne, j'ai l'habitude de partager mes présentations sur SlideShare de temps en temps. Et je viens de partager cette présentation-ci. Alors, si vous ne connaissez pas SlideShare, c'est une plateforme de partage de diapos. C'est une sorte de YouTube pour les diapos. Alors, permettez-moi de vous montrer quelques exemples pour illustrer le don de donner. Alors, voici une présentation que j'ai faite il y a quelques années sur la communication en crise après l'éruption du volcan islandais. Je ne vais même pas tenter de prononcer le mot de ce volcan, mais... bon, j'ai créé cette... il m'a fallu pas mal de temps pour créer cette présentation et certains enseignants ne comprennent pas pourquoi je partage cela gratuitement avec, les internautes. Mais moi, je considère cela comme une forme de lagnap. Après tout, la plupart des informations, la plupart des photos, des articles, des vidéos que j'utilise dans ces présentations me sont parvenues par mon réseau d'apprentissage. Alors, tout ce que j'ai fait moi, c'est d'en faire la curation. Alors, pourquoi pas redonner, partager de nouveau avec mon réseau ce que j'ai créé. Et je n'aurais pas pu créer cette présentation sans les ressources qu'ils m'ont fournies en premier lieu. Alors, le partage en ligne fait aussi partie d'une stratégie de communication pour mieux se faire connaître. Alors, suite à ce partage, j'ai été interviewée pour un reportage dans un magazine financier. On m'a demandé de créer un tutoriel sur la communication de crise pour FedEx. Certes, je ne suis pas la meilleure experte dans ce domaine, mais je suis visible en ligne. Alors, je suis facile à trouver et partager gratuitement vos travaux vous rend visible et cela peut se transformer vite en opportunité lucrative. Alors, de même, c'est grâce au partage en ligne et à ma transformation en enseignant et connecté que j'ai été invité à participer à des conférences aux États-Unis, en Europe, au Canada. Alors, pour terminer, je vous laisse avec l'idée de l'éducation ouverte qui me tient vraiment à cœur et je vous encourage tous à embrasser le partage dans le domaine de l'éducation et je crois que si nous nous mettions tous à partager davantage, je suis persuadée que nos vies professionnelles, que nos cours en profiteraient plus que jamais. Alors, je vous remercie pour votre temps et je crois qu'on a quelques minutes pour une partie questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a des questions ?
Merci beaucoup pour avoir partagé ce moment avec nous et on peut le prolonger tant qu'il y aura des questions. Donc il y a deux micros, un que je vais garder et un pour les questions. S'il y a une première question, c'est toujours la plus difficile. Oui, c'est bien, on avait bien répété.
Alors c'est peut-être une question qui va couper les cheveux en quatre, mais bon, tant pis. Je me demande à partir de quand on peut parler... Enfin, je me posais la question pour les espaces personnels d'apprentissage, qui me semblent plutôt être des espaces personnels d'information, finalement. Et je me... Bon, pour les réseaux personnels d'apprentissage, faut que je réfléchisse encore pour voir si c'est... pour voir si je pense que c'est que des réseaux personnels d'information. Mais je me demandais comment... Est-ce que réellement ça peut exister un espace personnel d'apprentissage ou un espace personnel ou un réseau personnel d'apprentissage, ou est-ce qu'on en reste au stade de l'information, ce qui est déjà très utile, mais il faut autre chose en plus pour qu'il y ait de l'apprentissage?
Quand j'ai réalisé cette conférence, je me suis demandé qu'est-ce que je vais aborder dans cette conférence. Alors normalement, quand j'ai fait ces conférences, j'ai deux conférences différentes que normalement je donne. L'une, c'est ce que vous venez d'écouter, c'est sur les réseaux d'apprentissage personnel. L'autre, c'est sur la curation des contenus. Et je vois ça comme une deuxième étape qui, après le réseau personnel d'apprentissage que vous avez construit en ligne, qu'est-ce que j'ai fait avec l'information? Et c'est à ce moment-là que la curation des contenus devient importante. Et je crois que c'est là où un enseignant a la chance, l'opportunité de changer les informations et d'en faire...
Parce que la curation, enfin, je suis pas sûre de savoir exactement quel est le sens du terme. Ça consiste à organiser les informations ou alors à les retraiter, à réécrire à partir des informations, à synthétiser. Fin...
Oui, c'est un peu... moi, quand j'en parle, je parle de... Je crois que c'est 8 étapes différentes, mais bref, c'est... Vous filtrez les informations, vous sélectionnez les informations, vous les classez. Et le plus important, c'est que vous ajoutez quelque chose de nouveau. Que vous, en anglais, on dit framing. Pour cela, que vous, je ne connais pas le mot. Qu'on fait un, c'est apporter quelque chose de nouveau au... Comment ?
Peut-être contextualisation.
Oui, c'est une c'est ça, c'est une contextualisation de l'information. Mais si tout ce que je fais, c'est de rassembler, de recueillir l'information dans des services de partage désignés, j'ai fait de l'agrégation. Je n'ai pas fait de la curation des contenus. C'est à partir du moment où vous ajoutez quelque chose de nouveau, prenez l'information que vous recevez et que vous la rangez de façon nouvelle, que vous créez quelque chose, que vous créez un mash-up, quelque chose de nouveau, quelque chose qui apporte la valeur à votre réseau et à vos étudiants.
Mais je voulais vous poser une question. Vous présentez ici une nouvelle posture finalement de l'enseignant qui construit finalement ses connaissances, son corpus à partir d'éléments partagés et avec le travail de curation qui vient d'être présenté là. Mais comment finalement les étudiants, comment vous leur demandez d'avoir cette posture également, mais comment se passe la relation avec eux? C'est-à-dire, comment vous utilisez tout votre environnement, pas seulement en leur disant « faites comme je fais, faites-vous votre propre réseau ouais. ». Qu'est-ce que vous, finalement, vous transmettez à vos étudiants?
Alors d'abord, c'est beaucoup plus facile si vous avez une vingtaine d'étudiants. Alors je crois que pour vous, vous avez une centaine d'étudiants, plus ou moins, c'est ça?
Toujours dans les masters, dans les masters ou dans les groupes de, dans les petits groupes de travail, on peut avoir les mêmes effectifs.
Okay. J'enseigne des cours de nouvelles technologies et dans ces cours-là, c'est simple, ça fait partie du cours, ça fait partie du sujet qu'on aborde dans le cours et alors là, je peux vraiment forcer mes étudiants à créer ces réseaux pour afin qu'ils puissent voir. Ça prend du temps et vous venez de le voir. Ça prend du temps pour un étudiant comme pour un enseignant pour vraiment apprécier ce que lui apporte un réseau d'apprentissage. Et dans mes cours de nouvelles technologies en médias sociaux, je fais ça. Ça fait partie du cours. Alors, ça fait partie d'une portion des points que gagnent de leur note finale. Et alors là, à partir de ce moment-là, il y a une motivation différente que dans mes autres cours où je parle aux étudiants de... par exemple, si j'utilise une étude de cas récente que je viens de trouver en ligne, alors je parle à mes étudiants... de la façon dont je viens de trouver cette étude de cas. Je leur dis qu'elle m'est parvenue par un gazouillis ou qu'elle m'est parvenue à travers mon lecteur RSS. C'est pour que mes étudiants voient bien comment je reçois moi, comment j'apprends moi-même en tant que professeur et qu'ils puissent... c'est la question du modelage que je viens d'aborder. Je veux bien que mes étudiants voient comment moi, comme enseignant, je bénéficie à travers ces réseaux.
Bonsoir tout le monde. C'est juste par rapport à, depuis tout à l'heure, vous parlez de Twitter. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut travailler avec d'autres réseaux sociaux, par exemple Facebook ou, pour moi, personnellement, Twitter, il est un peu difficile. J'ai créé un compte et après, j'ai laissé tomber. Je suis plus Facebook. Ouais. Alors, vous parlez de réseaux sociaux. Alors, mais pour l'intitulé, vous avez choisi vers une pédagogie des médias sociaux. Alors, pourquoi on ne dit pas vers une pédagogie des réseaux sociaux?
C'est une bonne question. C'était vers une pédagogie stratégique des médias sociaux, mais le mot stratégique n'a pas... j'ai pas pu le mettre sur le diapo, mais quand même, vous venez de parler de Facebook. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme de réseautage social pour faire ce que je viens de vous expliquer. Je crois que c'est une préférence personnelle aussi. Si moi, j'ai utilisé Twitter depuis quelques années, je l'aime bien, ça me dérange pas, mais si vous préférez utiliser Facebook, je crois que vous pouvez faire la même chose avec. Moi, j'utilise Facebook d'une manière différente. J'utilise Twitter plutôt en tant que... Professionnellement, oui. Et j'ai 900 abonnements sur Twitter. Je n'ai que une centaine de. Oui, vraiment, je n'ai qu'une centaine de, d'amis sur Facebook. C'est parce que je considère cela mon réseau personnel et pas vraiment public, mais pas vraiment professionnel. Et je veux donc que les gens sur lesquels je m'abonne à Facebook, que ce soit des gens que je connaisse vraiment, que ce soit des amis ou des membres de ma famille.
Une dernière question. Alors, c'est par rapport aux activités. Est-ce qu'on peut prévoir des activités en présentiel? Lorsqu'on parle des réseaux sociaux ou des médias sociaux, on pense souvent à distance, des cours à distance, des activités à distance. Mais est-ce qu'on peut prévoir d'autres activités en présentiel?
Oui, je crois bien. Mais moi, je n'utilise... J'ai jamais donné des cours à distance. Ça ne se fait pas. Notre université ne donne pas de cours à distance. Alors, tous les exemples que je viens de discuter sont bien là des exemples qui sont faits face à face.
Ah, d'accord. Parce que j'ai vu le professeur connecté, étudiant connecté, pour moi, c'est à distance.
Oui, je crois que c'est... Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Quand vous parlez du numérique, tout simplement, il y a beaucoup de gens qui pensent au MOOC, qui pensent à... Et le MOOC, c'est une connotation plutôt négative aux États-Unis. Je crois qu'en France, peut-être aussi, non?
Ça commence.
Vous avez...
Oui, moi j'avais un témoignage sur l'usage de Twitter en direct en amphi. C'est une façon de procéder, mais on avait des étudiants qui nous disaient « je ne veux pas ouvrir un compte Twitter ». Donc on est passé sur du chat sur la plateforme de e-learning Moodle, hein, qui fonctionnait aussi, mais sans la limitation de caractère. Donc c'était un peu plus difficile à gérer. Ouais. Moi j'avais une question sur, est-ce que vous avez des moments particuliers où vous tweetez? Moi je peux vous donner comme exemple que je tweete essentiellement pendant que j'assiste à des conférences comme la vôtre.
J'ai pas entendu la...
Est-ce que vous tweetez à des moments particuliers ou vous tweetez sans relâche?
Oui. Ben oui. Mais, normalement, j'utilise mon réseau Twitter en tant que professionnel comme enseignante, en tant que professionnel des relations publiques. Mais oui, il y a des moments où j'avais un... Il y a des moments quand... c'était... Bah, vous ne connaissez pas AT&T, c'est une compagnie... comment dire, c'est une compagnie de télécommunications, mais mon abonnement ne marchait pas très bien, mais j'ai utilisé Twitter comme moyen de faire communiquer mes frustrations avec avec cette compagnie qui cette entreprise qui me chargeait beaucoup d'argent.
Il y a eu un effet notable.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui font la veille numérique et qui vont vous répondre sur Twitter si vous avez des commentaires négatifs. Et c'est ce qui s'est produit ici. Et en fin de compte, c'était un succès.
Alors, mais merci pour votre intervention. Et puis, ma question, c'était sur les limites de cette connexion. Parce que, je me dis, comment on va vendre ça aux enseignants ? Là, j'ai proposé à un enseignant de venir parce que il utilise les forums dans ses...
On ne dénonce pas.
Dans le cadre de cours de TD, et je me suis dit, tiens, ça va parler de la même chose. Et en fait, c'est complètement différent. Et est-ce que... les limites auxquelles je pense, c'est est-ce qu'on peut proposer ça aux étudiants de début de licence? Ou alors, est-ce qu'il faut réserver ça à des étudiants, par exemple, qui sont déjà bien avancés dans leurs études? Par exemple, pour l'étude de la philosophie ou de l'histoire, est-ce que c'est y a des matières qui sont moins propices à l'utilisation de l'apprentissage social?
Je crois que n'importe, je crois que vous pouvez utiliser cela, peu importe votre domaine d'études. Mais la question, c'était est-ce qu'on fait ça avec les étudiants, les nouveaux étudiants, ou est-ce qu'on attend un peu de temps pour le faire avec les étudiants plus avancés? Mais moi, j'ai des étudiants qui, en première année, qui ont construit des réseaux. Et je crois que les étudiants, quand ils viennent dans nos cours, ils utilisent déjà, d'une manière personnelle, ils utilisent déjà tous les les plateformes qu'on vient de discuter. Alors, pourquoi ne pas leur apprendre à utiliser ces plateformes d'une manière plus stratégique, de se donner un objectif dans l'utilisation de ces plateformes et de leur montrer comment faire ça en éducation pour approfondir et accroître leurs connaissances. Et ça peut se faire en philosophie, ça peut se faire en histoire, ça peut se faire en communication, ça peut se faire, je crois, vous pouvez trouver des experts sur ces sujets à travers les réseaux sociaux. Bah, certes, il y a certaines plateformes où vous trouverez plus d'historiens, d'experts en philosophie, mais ça, vous le savez, si vous travaillez dans ce domaine, vous avez quand même des connaissances, vous avez quand même, vous savez où se trouvent les experts, sur quel réseaux sociaux se trouvent ces experts et comment connecter avec eux.
Oui.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être complètement submergé et débordé par l'information? Est-ce que vous proposez aussi des formations pour gérer de manière critique l'information, savoir ce qui est pertinent ou pas? Vous avez beaucoup évoqué les auteurs, donc les auteurs qui parlent de manière pertinente. Mais est-ce que sur le fond lui-même, vous ne vous retrouvez pas complètement débordé par une masse qui parle un peu dans tous les sens? Et puis ma deuxième question, c'est sur les Twitter. Je ne connais pas bien Twitter. Mais est-ce que les personnes qui tweetent n'ont pas des intérêts divers? On s'intéresse aux tises d'un côté, mais à de toute autre chose. Et vous, comment est-ce que vous gérez toute cette information? Est-ce que vous récupérez que les tweets sur les tises et pas du tout les autres tweets sur ce qu'ils mangent ou sur ce qu'ils font par ailleurs?
Okay. Non, c'est une bonne question et oui, oui, il est tout à fait possible de recevoir tellement d'informations que vous ne savez pas quoi en faire. Et c'est à ce moment-là qu'il devient important. Je crois que j'ai discuté cela brièvement dans ma conférence, mais à partir d'un certain moment, et je ne peux pas vous dire à partir de quel moment précis, mais à partir d'un certain moment, si vous avez une centaine d'abonnements, alors oui, ça devient beaucoup d'informations à gérer. Mais c'est pour cela que vous avez des outils qui aident à la gérance des flux d'informations, et notamment Hootsuite est un de mes préférés. Je ne sais pas si vous connaissez Hootsuite. Mais c'est pas mon ordinateur, sinon j'aurais vous montrer comment Hootsuite gère vos flux d'une manière thématique. Mais ce que j'aime bien, c'est que Hootsuite vous permet vous pouvez faire filtrer les informations. Comme vous avez dit, j'ai 900 abonnements, je ne veux que voir les abonnements, les tweets qui parlent des TIS, par exemple. Alors, oui, vous pouvez faire cela par Hootsuite, vous pouvez filtrer les gazouillis et ne lire que les gazouillis qui portent sur un certain thème.
Oui, je voudrais quand même réagir sur un point. On peut filtrer, mais lorsque vous recevez un lien, il y a aussi un travail sur le site lui-même que l'on va voir. Nous, en histoire, et je suis enseignant en histoire, on fait une véritable formation spécialisée pour apprendre aux étudiants à filtrer le site à travers une analyse extrêmement précise du site pour savoir si l'information est pertinente. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde écrit sur l'histoire. Et est-ce que... Je suis sceptique sur le fait qu'un outil comme Hootsuite puisse permettre de faire tout un travail critique. Il permet de ranger à vue d'œil sur quelques tweets, mais après, ces tweets, ils donnent un lien, et oui. Ce lien, il donne un site qui, lui, est riche, complexe. Ce travail critique, est-ce que quelqu'un d'autre que l'esprit critique de l'étudiant ou de l'enseignant peut faire le travail en quelque sorte?
Oui, ce ne sont là que des outils. Alors, ils vous facilitent la gérance, mais il faut... toujours faire il faut toujours critiquer les informations que vous recevez vous-même. Et c'est là un thème que nous abordons dans quelques de mes cours. Si vous enseignez des cours en nouvelles technologies, c'est un thème important de comment faire la critique, comment évaluer les choses que vous trouvez en ligne. C'est une connaissance que nos étudiants doivent développer, parce que quand même il passe beaucoup de temps en ligne. Mais oui, je suis tout à fait d'accord que les outils comme Hootsuite, oui, ça vous facilite la gérance, mais non, vous devez toujours faire la critique vous-même.
Oui. Justement, j'ai aussi les mêmes interrogations parce que ces outils-là, même s'ils sont très, ils nous offrent plein de potentialités, elles ont aussi le risque de surévaluer des informations qui ne sont pas vraiment pertinentes par la facilité justement de retweeter et qu'il n'y a pas vraiment une phase de peer review forcément. Et dans cette même optique, la manière de construire son réseau, en fait, a aussi ce risque de... On utilise, en fait, les réseaux des autres réseaux, et du coup, on se retrouve dans un milieu assez dégénéré, parce que c'est toujours les mêmes sources d'informations qui sont amplifiées, et comment on peut gérer cette
difficulté? En anglais, on appelle ça la filter bubble. C'est la bulle que vous créez, le monde que vous créez, et c'est vrai, c'est un danger des réseaux sociaux, tout simplement, c'est que en sélectionnant des gens ajoutés à mon réseau, j'ai des préférences personnelles, je fais l'évaluation en ce qui concerne la décision d'ajouter ou de ne pas ajouter un certain utilisateur. Pourtant, ça se peut que si vous avez des vues politiques que je n'aime pas, mais peut-être que je ne vais pas vous ajouter à mon réseau personnel. Alors, il faut être vigilante. Il faut être vigilant pour faire en sorte que votre réseau ait des voies divergentes, que ce n'est pas du tout la même voie et les mêmes, you know, des gens avec les mêmes pensées, les mêmes philosophies politiques ou les mêmes philosophies de l'éducation que vous. Mais ça revient au oui, il faut faire cela. C'est un aspect humain que les outils ne vous permettent pas d'ajouter à votre réseau.
J'avais une autre question par rapport à...
Pour compléter ce que tu disais, il y a aussi l'instantanéité du tweet et du buzz hein, et de cette bulle, mais il y a aussi des temps de synthèse hein, et des temps de collecter et synthétiser sur des outils comme Storyfy ou Pinterest ou des choses comme ça, donc ou voire même des articles de blog qui reprennent un certain nombre de tweets et qui nous permettent de nous faire une idée plus précise qu'au moment où on le lit ou au moment où il est retweeté.
Oui, et les outils comme Storyfy, c'est là des outils de la curation des contenus que je viens d'aborder.
Oui, tout à l'heure, on mentionnait qu'il y avait différents réseaux sociaux et que vous les utilisez différemment. Oui. Donc, effectivement, est-ce que vous conseillez aussi à vos étudiants d'avoir une deuxième identité pour séparer ce qui est plus de nature personnelle et puis ce qui est plus de nature professionnelle?
Alors, c'est là une bonne question. Et ça touche à la ligne que vous... entre qui divise votre personnage personnel et votre personnage public. Mais je crois que nos étudiants, enfin mes étudiants, je ne crois pas qu'ils voient cette différence de la même manière que nous, les plus âgés. Non. Alors moi, ce que je conseille aux étudiants, c'est de rester authentique, de... S'ils ouvrent un compte sur Twitter, de faire attention à la gérance de la réputation en ligne, mais quand même, je ne leur conseille pas d'avoir deux comptes différents, un pour leur identité professionnelle et un autre pour leur identité personnelle. Je crois qu'il faut marier les deux et c'est ça. Un peu aussi ce qu'ils apprennent dans ces cours, c'est comment est-ce qu'on fait pour projeter une identité à la fois professionnelle et aussi un peu personnelle. Alors, comment faire ça? C'est une bonne question.
Il tweet beaucoup et il pose beaucoup de questions.
Ouais, c'est très difficile de garder deux identités actuellement, en particulier sur les téléphones, parce que maintenant, on ne sait plus avec quelle identité on paramètre et quelle application dialogue avec quelle application et sous quelle identité. On peut encore avoir un compte Facebook sous la ligne de flottaison, mais c'est difficile.
Et surtout si vous faites ça pour les entreprises. Il y a pas mal d'exemples de gazouilleurs qui ont tweeté quelque chose sur le compte personnel alors qu'ils étaient connectés dans le compte d'entreprise. Oui. Alors il faut vraiment faire attention.
Moi, je voulais vous poser une question sur le titre, en fait, parce que habituellement, dans les conférences qu'on donne souvent ici, la question, c'est comment faire en sorte que les enseignants utilisent les médias ou utilisent les TIC. Et là, vous renversez, évidemment, c'est un paradoxe, du professeur connecté qui utilise les connexions, non pas pour tweeter ou en direct, mais pour se construire un corpus de cours. Quoi. C'est-à-dire, il change de posture, comme je disais, il partage. Donc, c'est déjà quelque chose qui est assez paradoxal et pas très courant dans l'université. En tous les cas, dans le secondaire, c'est un peu plus courant. À l'étudiant connecté, souvent, nous, on dit les digital natives, c'est les connectés, les étudiants, et il faut que les enseignants s'y mettent. Donc je voulais savoir si vous étiez une exception au Texas ou aux États-Unis, ou comment finalement s'organise cette chose-là dans votre milieu, dans ce que vous suivez en tous les cas.
Bah, je crois que les étudiants sont connectés d'une autre manière. Je ne crois pas que la plupart des étudiants qui que je rencontre dans mes cours, je ne crois pas qu'ils utilisent les médias sociaux d'une manière stratégique. Ils utilisent les médias sociaux, oui, ils utilisent Facebook, Instagram, toutes les plateformes de réseautage social que vous connaissez, oui, ils les utilisent, mais ils les utilisent de façon... ils mettent en ligne des photos, ils sont connectés à leurs amis, mais ils n'utilisent pas cela pour trouver un emploi, pour créer une identité professionnelle qui va leur rendre plus facile le travail de trouver un emploi. Et je crois que c'est ça qu'il faut apporter aux étudiants, c'est le modèle, comment utiliser cela d'une façon stratégique pour vraiment pour pouvoir utiliser cela comme un outil d'apprentissage.
Et l'autre point qui est lié pour moi, c'était ce que vous avez dit sur les MOOC, qu'effectivement, après un grand engouement, il y a un regard critique, ce qui est assez logique dans la courbe des innovations. Mais malgré tout, dans ce que vous proposez et ce qu'il y a dans les MOOC, c'est un travail entre pairs. Entre les enseignants qui veulent partager, faire du tutorat ou partager un cours, et les étudiants qui eux-mêmes organisent leur propre dispositif, ce que vous appelez le réseau personnel d'apprentissage, ils organisent un dispositif pour apprendre, pour comprendre. Et donc, en vous entendant, j'en voyais une filiation directe. Comment vous expliquez que ces choses-là qui ont... cet usage des médias sociaux qui se répand finalement et remise en question au sein des MOOC ou au sein d'autres cours.
La dernière partie.
Comment vous expliquez que les MOOC finalement qui utilisent, qui ont poussé un peu plus loin ce que vous venez de présenter, travailler entre pairs au sein d'un même cours ou entre pairs au sein d'une même... en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant, ne suscite autant de critiques actuellement?
Si je comprends bien la question, c'est comment les étudiants...
C'était peut-être pas clair. Alors, j'ai essayé de le reformuler. Ce que vous avez proposé me fait penser à quelque chose qui a été poussé plus loin, c'est-à-dire structurer vraiment, en plus à distance, un apprentissage qui permet d'utiliser des médias sociaux. On utilise sur un MOOC un certain nombre de chats ou de forums ou de wikis pour partager et apprendre. Ça, tant du côté des enseignants que du côté des étudiants. Or, dans le petit échange qu'on a eu, vous disiez que les MOOC, finalement, ils sont très critiqués. Et en France aussi. Donc, est-ce que c'est un... qu'est-ce qui vous paraît, générer ces critiques?
Pour les étudiants, doivent toujours... Je ne sais pas vraiment si c'est là la question que je me suis posée. En faisant cette présentation, mais de la manière que je vois, les étudiants utilisent ces réseaux, ils utilisent déjà ces médias, ces réseaux et... si vous le faites en classe ou si vous le faites en dehors de la classe, ils vont continuer à utiliser cela. Je ne sais pas si c'est
Est-ce qu'on termine cet échange ou est-ce qu'il y a une dernière question ou une avant-dernière?
Comme vous avez vu, comme vous échangez des pratiques pédagogiques avec d'autres enseignants, je voudrais savoir si vous avez des exemples sur le cas suivant, puisque, comme le disait Yannick, c'est vrai que je trouve ça intéressant d'intégrer dans les sources qu'on consulte régulièrement des sources avec lesquelles on ne serait pas d'accord a priori. Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose que je pratique et c'est toujours très enrichissant. Et c'est vrai que le réseau personnel d'apprentissage, ça peut être un moyen justement d'entrer en débat ou en confrontation avec d'autres, que ça soit passif ou en lisant des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, ou actif en débattant. Oui. Je voudrais savoir si vous avez connaissance des idées ou des connaissances d'activités pédagogiques qui permettraient aux étudiants de pratiquer la controverse pour apprendre justement.
J'ai pas mon ordinateur ici, mais j'ai un exemple que j'ai utilisé moi-même dans mes cours pour montrer aux étudiants. Vous venez d'aborder l'outil Storyfy ou Storyful, je ne sais plus lequel, c'est à peu près la même chose, mais ça vous permet de regrouper les tweets ou des vidéos, des photos et de faire un reportage. Alors, j'ai trouvé deux exemples de Storyfy, de reportages sur le même événement, sur la même conférence, alors fait par deux utilisateurs différents, avec des philosophies, c'était une conférence d'éducation, mais c'était avec des philosophies tout à fait différentes, et c'était, j'utilise ça dans mes cours pour montrer aux étudiants comment... pour leur montrer un peu les dangers de la curation, parce que quand même, si vous n'utilisez que certains tweets, vous pouvez raconter une histoire qui est tout à fait différente d'une autre histoire. Et c'est un exemple que j'ai trouvé en ligne, mais deux exemples de Storyfy sur la même conférence, du même conférencier, mais l'une qui dit alors là c'est vraiment mal, c'est... et l'autre qui dit que oui, le conférencier a raison, c'est je me rappelle plus du thème de la conférence, mais c'était Arne Duncan, c'est le responsable du gouvernement américain en éducation, je ne sais pas son titre, mais c'est un politicien et il est venu à Austin pour donner une conférence et c'était très politique, mais c'est un bel exemple pour illustrer comment vraiment avec les tweets que vous regroupez et photos que vous recoupez, vous pouvez construire n'importe quelle histoire ou reportage.
Ok, bien, si il y a pas de questions, on va s'arrêter. Bon, merci de partager ce moment avec nous. C'était comme une conférence, un prétexte finalement à échanger avec des collègues qui sont venus de différentes universités. Le slide share a été tweeté là, par Alexa et je pense par Thierry. Et puis demain ou après-demain, l'intervention sera en ligne. Donc on vous enverra le lien. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. Merci.